FM, Beurre FM, il est minuit. Beurre FM, la redille.
Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de La Vie en Grand avec Edwige Antier.
Bonjour
Edwige. Vous êtes pédiatre, oui. Vous êtes experte, vous êtes formatrice à l'EFPP, dirigée par Hervé Madet. Moi, j'ai eu l'occasion de vous voir dans une conférence où il y avait plusieurs intervenants et j'ai été complètement estomaqué par la queue qu'il y avait devant votre place où les gens viennent et vous posent mille et une questions. C'est un succès énorme. C'est pas simplement un succès d'estime. Il y a une soif d'apprendre et on voit cette énergie que prennent en tout cas les formateurs que vous avez, les étudiants qui sont formés. J'ai quand même été impressionné.
Et oui, c'est ma passion, ma vocation, ma vie entière qui est vouée à la parentalité. C'est très difficile d'être parent, c'est très difficile d'élever un enfant, particulièrement aujourd'hui, mais en même temps c'est passionnant et c'est la chose qui peut nous rendre le plus heureux et qui donne un sens à la vie. Donc en tant que pédiatre, depuis deux générations, oui, je voue ma vie à l'aide à la parentalité.
Alors il y a quelque chose qui m'a étonné dans votre relation, c'est que c'est pas du tout précieux. C'est-à-dire que vous utilisez des mots de tous les jours, les gens vous comprennent, vous utilisez des mots simples, des images, des métaphores, et c'est vraiment un langage que tout le monde peut connaître, et j'étais vraiment étonné parce que on a l'habitude des fois d'entendre un peu des spécialistes et des gens qui s'enferment devant dans des rhétoriques et un espèce de verbiage que personne ne comprend, et vous, c'est pas ça, c'est le contraire.
Oui, je suis très attentive à ce que je dis puisse avoir un effet sur la personne qui m'écoute. Donc, il faut être intelligible, et les mots d'une mère, c'est des mots à la fois du cœur et d'une ambition pour son enfant. Donc, il faut répondre à ces deux projets, à ces deux. Il n'y a pas de maman qui n'ait pas une grande ambition pour son enfant. Donc, on a une responsabilité quand on parle aux parents.
Vous êtes maîtrice de parole, d'expertise, de savoir, de sagesse, entre autres. Et ça ne sert à rien d'être émetteur si on ne crée pas les conditions du récepteur, de la réception. Ça ne sert à rien délivrer une logorée si en face, ce n'est pas reçu, ce n'est pas compris.
Le problème n'est pas de paraître savant, mais de transmettre son expérience et son savoir.
Merci Louise. Alors aujourd'hui on va aborder la langue, le multilinguisme, le bilinguisme, quelles sont les répercussions de la langue sur un enfant, est-ce qu'il y a un âge pour parler, est-ce qu'il y a un âge pour pas parler, s'il y a du retard, s'il n'y a pas de retard, les sous-doués, les surdoués, l'incidence de l'environnement sur la langue, on va aborder tout ça. Peut-être déjà faire un petit tour autour de la langue. La langue, c'est le lien. Dans langue, c'est le lien, c'est ce qui fait lien avec, bien sûr, les parents, la fratrie, mais aussi avec l'extérieur. La langue, elle est fondamentale?
Absolument. Vous savez, c'est ce qui fait l'humain. Une langue, c'est un ensemble de signes vocaux, de phonèmes, une prosodie, tout un ensemble de messages que l'on peut adresser par nos cordes vocales à l'autre être humain pour communiquer. Et une langue fédère une communauté d'humains parce qu'ils ont communiqué avec ces signes vocaux-là. Et c'est très important.
C'est un code qu'ils ont créé entre eux.
C'est ça.
Et qui fait que cette même communauté utilise ce même code.
Alors on a commencé à parler. Vous savez, les êtres humains, ils ont commencé à devenir ce qu'on appelle homo sapiens, des hommes savants, en Afrique de l'Est, il y a 300 000 ans. Avant, on était des grands singes à quatre pattes et qui grimpaient aux arbres. Et quand on s'est redressé, deux singes qui se redressent, ils se regardent. Vous voyez, on n'aurait pas une conversation très longue quand on est allongé. Là, on se redresse, on se voit avec les yeux Et à ce moment-là, la bouche s'est développée, la langue, les cordes vocales et toutes les aires du langage se sont développées, puis de l'écriture. Car la langue, c'est aussi la langue graphique écrite pour transmettre. Donc ça vient de très longtemps, de petites communautés en Afrique de l'Est. Nous sommes nés là comme bébés d'Homo sapiens et on a commencé à vouloir parler.
Est-ce qu'on peut dire que langue, langage et parole, c'est la même chose? Où il y a des différences?
Ah oui, non, c'est très différent. Le langage, c'est donc cette suite de signes qui nous permettent de penser. Quand vous marchez tout seul dans la rue, vous vous dites, je vais parler avec les auditeurs de tel sujet. Vous vous le dites tout seul, personne ne vous entend. Vous vous le dites dans la tête. Ça, c'est du langage et ça soutient votre pensée. Ça ne sort pas. La parole, c'est ce qui sort par la bouche pour le transmettre à l'autre.
C'est ça. Tout ça, c'est de la communication, en fait.
Ah oui. C'est-à-dire, on a commencé à communiquer.
On communique avec la langue, on communique avec le langage, on communique avec la parole.
Voilà.
On communique aussi avec les gestes.
Avec l'écriture.
Avec l'écriture.
Voilà. Alors, avec les gestes, c'est ce que fait aussi, quand je vous parle du singe. Le singe, il peut communiquer avec les gestes. Mais par exemple, vous voyez, sur le carnet santé, je le dis à tous les parents, parce que les carnets santé français, je le dis souvent, ils sont exceptionnels. Si vous regardez la visite des 9 mois, à chaque visite, il y a écrit développement. Développement, c'est pour que vous puissiez voir si votre enfant a bien tout son potentiel pour son futur. Et donc, à 9 mois, il y a écrit... Prends un objet avec l'opposition du pouce. Vous voyez, il oppose le pouce à l'index. À 9 mois, eh bien, c'est pour se préparer déjà à écrire. Il développe en jouant avec ces petits objets l'écriture déjà. Alors que le singe, il n'aura jamais ça. Il prendra avec les 5 doigts, on dit en râteau, parce qu'il grimpera aux arbres, mais il ne parlera pas, il n'écrira pas. Donc la noblesse de l'être humain, c'est le langage. Et puis la parole, puis l'écriture.
Et c'est la coordination entre, à savoir, le langage, l'écriture, la langue.
C'est ça.
Quels sont les... Sur la planète, on dit souvent qu'il y a 3 catégories qui ont le langage. On parle de l'homme, du perroquet et du dauphin.
Ah oui, mais je ferai une grande différence.
Le reste communique, mais n'a pas le langage.
Je ferai une grande différence, même entre l'homme, le perroquet et le dauphin. C'est que l'homme... ce qu'il caractérise dans le langage, c'est d'être capable de concevoir des concepts et d'avoir un sentiment de culpabilité. C'est propre à l'homme. On peut marcher dans la rue tout seul et puis se dire j'ai trop pressé mon enfant ce matin parce que j'étais en retard, on se sent coupable. Alors qu'un dauphin ne se sentira jamais coupable, il a juste des sons de communication. Et un perroquet, pareil, ne se sentira pas coupable d'avoir répété toujours le même mot et de vous avoir peut-être fait mal aux oreilles. Il n'a pas de culpabilité, donc c'est ça. Et l'homme, il commence à avoir son sentiment de culpabilité autour de 2 ans, l'âge de 2 ans.
Mais cette interprétation psychanalytique, c'est parce que l'homme a cette chose que l'ensemble des mammifères n'ont pas, qui s'appelle le néencéphale. Tout le reste a le téléencéphale, mais nous avons le néencéphale, est le siège de ce qu'on appelle la morale, la culpabilité, la décision,
le cognitif. Vous savez, souvent, même en consultation, je montre sur l'écran aux parents une image, vous tapez R comme surface, AIRES, cérébrale, main-bouche. Et vous voyez tout ce que vous dites, le néencéphale qui est en train de se débrouiller. Parce que souvent, les parents disent, pourquoi il met les mains dans la bouche, il prépare ses dents. Mais non, si vous regardez ces airs, il prépare le langage et l'écriture entre la main et la bouche. Et Françoise Dolto disait, pour l'enfant, la bouche, c'est une 3e main. C'est pour ça qu'il met toujours les jouets à la bouche. Il étudie avec sa bouche les objets qu'il peut toucher.
Et Louis Gentier, il semblerait qu'on ait que l'être humain ait une seule langue à l'origine. Il semblerait que toutes les langues que nous parlons sur la planète sont dérivées d'une seule et unique langue qu'on appelle la langue mère ou la proto-langue. Qu'est-ce que vous nous dites à ça?
Alors oui, je le crois profondément, parce que quand on regarde un bébé, vous voyez, il commence à émettre des sons qu'on appelle le proto-langage par le larynx. C'est pour ça que votre bébé, il va beaucoup plus commencer à faire son arre et puis ses mains, puis ses pas, quand vous le verticalisez face à vous, que quand il est couché, parce que quand on le verticalise, le larynx se coude et ça aide à émettre les sons. Quand on est couché, le larynx est beaucoup plus plat et on peut pas bien parler. Jamais une cantatrice va chanter couché, vous voyez, on peut pas. Et donc le bébé, vous le verticalisez en face de vous et il vous envoie, dès qu'il a mis 6 semaines, il vous envoie des heureux, que souvent les mamans me disent, il a dit heureux, tellement oui, il est content de voir, d'échanger. Voilà, dès l'âge de 6 semaines, il veut échanger.
Enfin, il y a à peu près des centaines d'étymologistes et de chercheurs, environ 400, plaident en faveur d'une langue unique, une langue originelle qui s'appelle le nostratique. Et il semblerait que les premiers mots prononcés par l'être humain il y a 100 000 ans, c'est une seule syllabe qui s'appelle tic, donc le doigt, et puis aqua, l'eau, donc qui serait parlé par 32 familles de langues. Donc voilà, donc c'est
ils ont sûrement raison, parce que comme je vous disais, l'homme est né, on le date vraiment à un endroit de l'Afrique de l'Est. Je le rappelle souvent parce que voilà, l'homme il est né tout nu, il est pas programmé pour vivre couvert, pour vivre dans un monde digital, il est né comme ça et il est toujours comme ça quand il vient au monde. Eh bien, en effet, on peut imaginer que le premier groupe resserré des humains ait eu une langue de départ. Et puis petit à petit, avec les migrations, les groupes se sont fédérés dans d'autres endroits et ont développé des langages différents.
Oui, enfin tout le monde s'accorde à dire, il y a un relatif consensus là-dessus, que les premiers sons, les premières langues viennent d'Afrique, et que ensuite l'Indo-Européen, l'Eurasie et l'Afrique du Nord se sont réunis un petit peu pour former ce qu'on appelle le phylum Indo-Pacifique. Donc voilà, on est vraiment dans ces origines de langue. Tout ça pour essayer de comprendre un petit peu la langue, d'où vient la langue, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc avant de faire une petite interruption, comment naît le langage chez un enfant? Est-ce qu'il parle dans le ventre de sa maman? Est-ce que déjà le bébé parle ou communique?
Oui. Dans le ventre de sa maman, c'est extraordinaire et c'est universel. On l'a vu aux échographies en 3 dimensions. Dans tous les coins de la planète, hein, quelle que soit l'origine de l'enfant, qu'il soit dans des îles de Papouasie ou qu'il soit en Occident, il exprime, il se prépare à exprimer les émotions. Et il a des mimiques sur les 8 émotions qu'on peut communiquer, de peur, de joie, etc., dans le ventre de sa mère. Donc il se prépare à communiquer avec l'autre, et quelque enfant qu'il soit, il saura montrer qu'il a peur ou montrer qu'il est content à un congénère dès qu'il va être né. C'est par les mimiques, c'est pas encore par les cordes vocales.
Beurre FM, la redille.
La vie en grand, avec Héloïse Antier, pédiatre et formatrice à l'EFPP. Vous venez de nous raconter, de nous expliquer comment le bébé dans le ventre de la maman s'exprime à travers des grimaces. Ça veut dire que c'est construit, que c'est pas du tout végétatif, c'est pas réflexe. C'est-à-dire que il est capable de se mettre en colère, il est capable de d'être content. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Il exerce
que, toutes les mimiques, toutes les grimaces à l'intérieur du ventre de la maman, c'est quelque chose de complètement, construit.
Alors c'est inné et je pense que c'est un exercice, parce que quand aux échographies en trois dimensions, on voit le bébé, le fœtus froncer ses sourcils, faire des moues qui ressemblent complètement aux moues que l'on utilise, qu'il utilisera pour transmettre ses humeurs, eh bien, ça ne correspond pas à quelque chose qui est arrivé. C'est plutôt qu'il s'exerce, il est programmé pour s'exercer à transmettre des émotions par des mimiques, de façon universelle. Donc quand il va naître au monde, il saura faire des sourires, et ces sourires, au départ, les parents disent c'est des sourires aux anges, parce que c'est
juste... pour pas dire des sourires béats.
Hein, béats, c'est ça, ouais. C'est-à-dire des sourires qui ne correspondent justement pas à un contenu réel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la programmation du bébé.
Mais ces sourires, Edoui Gentier, avant le stade du miroir, qui est, je crois, 2-3 mois,
c'est ça.
Ils peuvent pas être contrôlés, puisque, oui. Puisque lui, la lune, elle est près de son nez, il veut la toucher, tout ce qu'il voit. Donc, comment il peut personnaliser ses sourires?
Son système nerveux,
ses larmes.
Son système nerveux est programmé pour envoyer des sourires. Sa mère, qui est penché. Donc là, je vous parle de bébés qui ont de la naissance à 6 semaines. Il rêve, il fait des petites mimiques et il fait des sourires. Et la mère qui est programmée de son côté pour donner une valeur à ce sourire. Et souvent, les amis autour vont dire « Mais arrête, il sourit aux anges. Ça n'a pas de sens, quoi, c'est béat. » Mais elle, ça la ravit. Elle, instinctivement, ça c'est programmé, c'est instinctif, c'est pas raisonné. La mère va lui répondre par un sourire. Et petit à petit, le sourire du bébé va prendre sens. Quand je fais ça, ça illumine, parce qu'il capte les émotions. Tout ça, ce sont des programmes innés. Et ça illumine le visage de maman. Donc j'en refais et ça prend sens. Donc faut pas avoir peur de donner du sens. Au lieu de dire il sourit aux anges, ben, ce sourire favorise l'interaction et l'attachement de la maman à son bébé.
Alors le sourire avant le stade du miroir et le sourire après ce miroir, est-ce que c'est différent?
Alors, le stade du miroir, ça dépend de quel stade on parle. Si on parle du moment où le bébé se reconnaît, lui, dans son miroir, dans un miroir, ça c'est 18 mois. Comment on le sait? Parce que Dieu sait que les bébés ont l'air émerveillés devant un miroir, devant leur image, mais ils ne se reconnaissent pas. Comment on le sait? On colle une pastille sur le front du bébé, et c'est à partir de 18 mois. Avant, il va essayer d'enlever la pastille sur l'image du bébé. Et à partir de 18 mois, il va essayer de l'enlever sur son propre front. Donc là, il a compris que cette image, c'est lui.
Ça, c'est 18 mois. Mais
c'est ça.
L'histoire de la profondeur de champ, c'est 3 mois.
Voilà, c'est vers 3 mois.
Ça, c'est la profondeur de champ.
À la naissance, le bébé voit entre 20 et 40 cm. Et regardez comme c'est bien fait. Tout ça est programmé. 20 à 40 cm, c'est la distance entre bébé dans les bras et les yeux de sa maman. Il est programmé pour capter les émotions. Est-ce que je suis le bienvenu au monde? Est-ce que ma maman me comprend? Plus loin, c'est flou. Et tout près, il accommode pas. Et donc, il se voit en miroir dans le regard de sa maman. C'est pour ça que c'est très grave qu'une maman soit déprimée. Parce que là, l'accrochage va pas se faire. Donc, nous essayons toujours de dépister la dépression maternelle et même de la prévoir avant la naissance. Mais donc, le bébé se voit dans les yeux de sa mère. Cet échange de regard très important. Si le père est autour, si le père dit mais je suis tellement heureux, on est bien avec notre bébé, la mère va renvoyer aussi une image positive.
Alors c'est très important ce que vous nous dites. Est-ce que la façon de communiquer à l'intérieur du ventre de la maman par les sourires, par les crises de colère, etc. Est-ce que ça a des incidences sur l'acquisition du langage après la naissance? Est-ce que c'est quelque chose qui peut influer sur l'acquisition du langage précoce ou tardif? Comment
oui.
ça se passe?
Oui, complètement, complètement. Vous savez, le langage, en fait, il naît très tôt. Il naît très tôt dans le cerveau de l'enfant. Et d'autant plus tôt que, comme je vous dis, sa mère sera illuminé de bonheur, aura des sentiments vraiment investis dans son bébé, aidé par le père, soutenu par la grand-mère, enfin, quand tout le monde accueille ce bébé au monde dans une joie qui porte la mère et son bébé à connecter, eh bien déjà ça compte dans le développement du bébé. Et je voudrais dire qu'il est très important, par exemple, de porter son bébé. Vous savez, toutes les cultures traditionnelles, elles portent le bébé. Vous avez des images de culture africaine, le bébé est toujours au dos de la maman. En Asie, il est souvent sur le côté ou aussi au dos. Mais nous, on va dire, tu portes trop ton bébé, tu vas le rendre capricieux. C'est horrible. Je suis toujours, si vous voulez, en train de militer contre ces phrases très toxiques pour les enfants. Une mère, quand elle porte son bébé, eh bien, elle va lui parler, elle va le regarder, elle va échanger, et le langage se construit beaucoup plus tôt. Donc, dès la naissance, il faut porter le bébé, il faut pas le mettre avec cette éducation proximale où il est dans une grande poussette, avec une tétine pour lui fermer le bec. Non, on le porte et on lui parle. On lui dit, quand on est en ville, on va très vite dire, t'as vu, il y a l'autobus, etc. Et le langage se met. Donc, d'autant plus tôt, et vous avez raison, la précocité va être au rendez-vous parce qu'on a été immergé dans une immersion de langage qui a du sens.
Alors, on a vu comment on est le langage de l'enfant, mais à partir de quand parle-t-on de langue chez l'enfant? Parce qu'au début, il s'exprime par onomatopée. C'est areux, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est des sourires, ce sont des onomatopées. Mais à partir de quand peut-on parler de langue ou de langage?
Donc c'est areux, et puis après c'est beaucoup ma, papa, la. Et vraiment, on n'est pas encore dans la parole, mais quand le bébé comprend déjà, le langage c'est ce qui se comprend. Après la parole, c'est ce qui va sortir. Il faut qu'il y ait beaucoup de mots et de sens dans son langage, dans ses neurones, dans sa tête, pour qu'après ça sorte. Et vous voyez, ça sort quand il y a un trop-plein, c'est comme un entonnoir. Donc si vous parlez beaucoup à votre bébé, si vous jouez beaucoup avec lui, si vous le portez, etc., il va parler parce que ça sortira tout seul. Mais c'est pas parce que vous allez le forcer à désigner quelque chose. Je te donnerai ton biberon, tu me le montres du doigt, mais je te le donnerai si tu me dis boire, il va même plus demander le biberon. On ne peut pas forcer la parole. La parole, c'est pas avec un tire-bouchon. C'est ça sort parce que vous avez mis beaucoup de langage dans la tête, vous lui avez beaucoup parlé. Donc, c'est d'abord parler. Mais ça vient donc très, très tôt. Et très vite, vous voyez qu'il comprend que vous lui dites, va chercher tes chaussures. Il va les chercher alors qu'il ne sait pas ce que c'est dire. Il ne sait pas dire chaussures.
Alors, comment à l'apparition du langage se coordonne avec les autres éléments de communication, c'est-à-dire je veux dire le dessin ou je veux dire un semblant d'écriture, est-ce qu'il y a une coordination, est-ce qu'il y a une jonction, une synergie à la fois de l'acquisition du langage, de l'acquisition du dessin, où on fait une tête, un tronc, des pieds, etc. Est-ce qu'il y a une synergie entre ces trois choses-là?
Totalement, parce que le langage, ça vous permet de penser et de concevoir. Et pour dessiner, par exemple, un être humain, un bonhomme, comme on dit, qui va avoir qu'une tête, ou qui va avoir une tête, un corps, des bras, des jambes, eh bien, c'est que vous avez, même si vous lui faites le modèle, avant 4 ans, il ne fera pas un corps et une tête. À 3 ans, il fera une tête. Mais il faut vraiment attendre 4 ans. Et c'est mathématique. Même si vous lui faites le modèle, il ne le fera pas. Parce qu'il faut qu'il ait conceptualisé que vous avez une tête et un corps. Avant, il ne l'a pas réalisé. De même, le nombre des doigts, eh bien, jusqu'à 6 ans, il va vous faire 4 doigts ou 6 doigts. Et c'est à l'âge de la lecture, pour entrer au CP, qu'il est capable d'en dessiner toujours 5. Mais ce sont des concepts, c'est pas quelque chose qu'on peut leur apprendre, ça. Mais c'est parce qu'il a beaucoup pensé dans sa tête, parce qu'il vous a vu, parce qu'il vous a regardé, parce qu'il a compris aussi son corps, que tout ça va venir à des âges clés qui sont vraiment mathématiques.
On se retrouve dans un instant.
Beurre FM, la redille.
La vie en grand, Héloïse Gentier, pédiatre et formatrice à l'EFPP. Héloïse Gentier, l'enfant, le bébé, acquiert le langage, mais à partir de quand il comprend ce langage? C'est-à-dire que, je m'explique, si on lui dit « ne mets pas tes doigts dans la prise électrique », il va continuer à les mettre. Si, tant qu'il n'a pas mis sa main sur le gaz qui chauffe sur le feu ou sur la plaque qui chauffe le cuisinaire, il va continuer à la mettre. Le jour où il va la mettre, il va se brûler, il y retournera pas. Si on lui donne un interdit en lui disant tu touches pas à ça, il va pas comprendre, il va y toucher, il va continuer à y toucher. À partir de quand le langage est conceptualisé par l'enfant?
Ah, l'interdit, c'est la grande question des parents. Les parents voudraient être fiers que leur enfant obéisse très tôt, beaucoup trop tôt.
Parce il ne faut pas s'énerver, surtout quand il ne comprend pas. On
certainement
est d'accord.
Pas, parce que vous lui fermez les neurones. Moi, je dis toujours, chaque fois que vous criez, vous fermez les neurones, vous nuisez aux connexions neuronales. Donc, ça ne sert à rien et vous le désespérez plutôt qu'autre chose, parce qu'il a ce sentiment de culpabilité dont nous parlions tout à l'heure et qui désespère vite un enfant, qui est la fragilité de l'être humain, c'est ce sentiment de culpabilité. Mais pour l'interdit, alors c'est très simple. Souvent on me dit, parce que vous savez que j'ai fait que frapper les enfants est interdit maintenant par la loi. Je l'ai promu à l'Assemblée nationale et maintenant c'est dans la loi. C'est-à-dire que si vous frappez votre enfant, le juge peut vous enlever votre autorité parentale parce que c'est très négatif pour son développement, pas pour le plaisir de punir les gens. De toute façon, on vous aiderait, la loi est adossé à l'aide à la parentalité. C'est-à-dire, si on apprend que vous frappez votre enfant, on va vous dire, oui, vous êtes un peu débordé, vous comprenez pas comment faire, mais on va vous aider. C'est seulement si vous refusez que là, la loi va imposer quand même des contraintes. Mais donc, frapper un enfant, il veut mettre les doigts dans la prise, il veut prendre votre portable que vous avez négligemment laissé devant lui, vous lui enlevez et vous tapez sur sa main, il vous regarde et il s'en fout d'avoir mal, ça devient un jeu. Il vous brave et il le reprend, il vous brave et il retourne à la prise. Donc taper, c'est plutôt transformer la violence en jeu, c'est pas bon. Mais l'enfant ne peut pas comprendre tant qu'il est dans un âge de pure découverte. Son travail d'enfant, c'est de découvrir. Il est comme un cosmonaute qui arrive sur une planète. Il connaît pas les codes. Il faut qu'il apprenne d'urgence les codes. Donc, s'il était là avec nous, il toucherait au micro, à votre bouteille d'eau, à tout autour de lui. Et c'est normal, il ferait son travail d'enfant. Il explorerait la planète. Donc, vous lui dites, ne le fais pas. Vous laissez une prise accessible. Eh bien, ça ne marchera pas. Et s'il est, tous les parents vont me comprendre, s'il est sur le canapé du salon et qu'il saute comme un petit acrobate, il tombe sur la table devant, il s'ouvre le front, vous allez à l'hôpital, il a 5 points de suture, le lendemain il recommencera. Parce que il ne fait pas le rapport, il n'anticipe pas, il vit au monde présent et il s'ennuie et il explore. Alors il recommencera, ça deviendra.
Donc là,
c'est vous dire la douleur n'empêche absolument
donc là,
pas.
La langue, l'adjonction, la menace
ne sert à rien.
Ils n'y font rien.
Au contraire, ça l'amuse.
Il ne comprend pas la langue. Là.
Après, ça devient polichinelle. Vous savez, polichinelle avec son bâton, c'est très rigolo. Donc après, il vous brave et il s'en fout de se faire mal. Donc vous l'endurcissez. Par contre, si vous vous dites oui, c'est pas possible, il saute sur un canapé, il a 3 ans, il se fait mal sur la table. Premièrement, est-ce que cette table est dangereuse? Deuxièmement, il devait s'ennuyer et il faut que je l'occupe à autre chose.
Mais en bref, à partir de quand les vertus de la langue s'exercent?
Alors justement, ça va venir...
7 ans, l'âge de raison?
Alors vous m'avez vu un peu... Vous êtes formidable, Nasser. Vous m'avez vu un peu résister à vous dire la date, parce que je voulais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne, parce que on peut pas dire... Normalement, c'est 5 ans. Ce qui empêche un enfant de comprendre le nom, c'est le système limbique qui est le cerveau. Vous avez parlé du néocortex et entre le cerveau archaïque et le néocortex, il y a le système limbique. Et c'est le système émotionnel qui, lui, est en plein dès la naissance, avec un petit noyau de neurones qui fait ce warning. Et dès que l'enfant est effrayé, ennuyé, mal à l'aise, il hurle et il fait des colères. Et si vous-même, vous vous énervez, vous le punissez, etc., il est encore plus désespéré, mais la colère s'aggrave, ça ne sert à rien. Si par contre, vous vous dites « Ah d'accord, il ne peut pas encore comprendre. » Donc moi je lui dis « Non, le portable là qui est sur la table, c'est pour maman. » Je le mets loin et je donne aussitôt autre chose. Je comprends qu'il ne peut pas comprendre le nom, mais si je fais diversion, il va se détourner pour découvrir autre chose. Et à force de découvrir autre chose, il va comprendre que le portable, il s'en va. Mais c'est pas la peine de vouloir tenir tête et d'avoir un pouvoir. Alors si vous faites comme ça, diversion, vous l'occupez, vous vous en occupez bien, vous tournez toujours son attention vers des choses qui sont intéressantes pour lui, et vous protégez la prise électrique et vous éloignez le portable.
Mais quelque part, est-ce qu'on peut dire que mettre les doigts dans la prise électrique,
ça va servir à rien.
Tirer les cheveux ou jeter une assiette par terre pour la casser, est-ce que l'enfant communique? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il communique avec ses gestes?
Oui.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
Alors au départ, c'est de la découverte. Mais si on le gronde, après ça devient un jeu pour que vous vous occupiez de lui.
Ça devient la manifestation d'une contrariété.
Voilà,
d'une contrariété. Donc là, c'est déjà une communication, c'est un langage.
C'est une communication, mais il recommencera. Donc il ne faut pas provoquer de communiquer comme ça. Il faut provoquer de communiquer autrement. Donc il faut l'occuper tout de suite avec autre chose. Et si vous faites toujours attention à votre enfant, si vous vous en occupez beaucoup, si vous avez des moyens de diversion, les jouets bien classés, plein de matériel, etc., eh bien c'est à 5 ans qu'il aura engrangé les interdits et que tout naturellement, il n'ira pas aux interdits, parce que il a compris que c'est pas comme ça qu'on fait. Alors que si vous vous fâchez, si vous vous dites j'en ai marre, j'en peux plus, ça c'est un mot terrible pour les enfants, ils ont envie de mourir, ils se disent je tue ma mère, quoi. Donc j'en peux plus, il y en a marre, je te tape, je te punis, machin. Là, il peut s'organiser. Et au lieu que ça soit parfait à 5 ans, eh ben ça peut être beaucoup plus tard, et l'âge de raison, il ne vient pas chez tout le monde.
Alors, est-ce que l'ergonomie a une incidence sur l'apparition ou la construction du langage? Je veux dire, on met un bébé, un enfant dans un berceau où il y a des barreaux, on le met dans une chambre, on ferme la porte, etc. Beaucoup de parents les mettent aussi sur des tapis, à l'air libre. Donc, est-ce que l'immersion d'un enfant dans un espace contraint, renfermé ou libre, est-ce que ça agit sur le développement du langage et sur la rapidité d'acquisition?
Oui, si ça n'est pas adapté à l'âge, c'est extrêmement nocif. C'est-à-dire, si vous mettez un tout petit dans un lit à barreaux qui est sécure parce que quelqu'un est arrivé avec un chien et que vous voudriez surtout pas que le chien touche à votre bébé, ça c'est pour le protéger, et il est petit. Donc ça, c'est très bien. Si par contre votre enfant à 2 ans se met debout dans son lit, essaie de l'enjamber, pourrait même se casser, comme j'ai déjà vu les jambes, en voulant passer par-dessus, et que c'est une prison, eh bien là, vous allez générer des colères, vous êtes dans la contrainte, et c'est nocif. Donc tout dépend si c'est adapté au développement de l'enfant.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle, Edouard Gentier, qu'est-ce qu'on appelle la langue maternelle? C'est quoi la langue maternelle?
Nasser, la langue maternelle, c'est, vous savez, une langue, comme vous l'avez dit au début, c'est un ensemble de signes vocaux pour communiquer, pour s'exprimer avec sa communauté. Mais sa première communauté, quand on vient au monde, c'est donc le visage de sa mère, les mots prononcés par sa mère. On a vu qu'il a déjà entendu la voix de sa mère in utero et qu'il la reconnaît dès l'âge de 3 jours. On a vu que les bébés reconnaissent la voix de leur mère. Quand on rentre dans une nurserie, si c'est maman qui arrive, à 3 jours, je sais que c'est elle. Donc, la langue maternelle, c'est une communication extrêmement précoce dans la vie de l'enfant. Elle est très importante. Et dans les foyers bilingues, où il y a la langue maternelle et la langue paternelle, ou même trilingue, où la maman parle une langue, le papa, mettons, une autre langue, et puis l'école parlera encore une autre langue, eh bien, il faut bien se dire que la première langue, celle qui est dans les premières pensées de l'enfant, qui restera gravée, c'est la langue maternelle. C'est avec ça qu'il va pouvoir avoir l'envie de chanter, l'envie d'être bercé, l'affectif. Et puis, la langue paternelle, eh bien, tout dépendra comment papa et maman se parlent entre eux. Et mais on peut parler d'une langue à l'autre. Le bilinguisme et le multilinguisme, c'est une richesse. Mais il y a des façons de les pratiquer qui seront très importantes pour favoriser le développement de l'enfant.
Avant de rentrer un peu plus dans le détail, à partir de quand parle-t-on d'un retard d'acquisition du langage et de peut-être d'une avance où l'enfant est plutôt doué parce qu'il apprend très très rapidement? Quand le handicap et quand le doué?
Donc je rappelle encore aux parents d'aller dans le carnet de santé, parce que le carnet de santé, il vous donne des étapes avec les langages, et l'enfant doit dire, par exemple, ses premiers mots, il va commencer vers 18 mois, il doit associer deux mots à 2 ans, il doit faire des petites phrases avec des articles et des prépositions à 3 ans. Donc, grâce au carnet de santé, vous savez, et il y a des petites pastilles régulières, parce que, évidemment, l'État est très concentré, parce que le retard de langage, c'est quelque chose qui est vraiment grave, qui va impacter ensuite la lecture, la concentration, la réussite scolaire, la réussite sociale. Tellement le langage, c'est important. Donc, votre question est très importante. Et quand un enfant est en retard pour parler, vous allez à la PMI ou chez votre pédiatre. Il y a tellement de structures pour avoir une référence aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on va regarder? Si l'enfant, en effet, est en retard, eh bien, à qui il est confié dans la journée? Est-ce que c'est à une personne qui n'est pas impliquée, qui est sur son portable et qui s'occupe pas assez de lui? Est-ce qu'il est dans une famille où il y a beaucoup d'enfants et c'est toujours les aînés qui parlent le plus, etc.? Donc on va regarder ça. Ça va être pour donner des conseils de stimulation. Mais peut-être que il est en retard parce qu'il ne communique pas, parce qu'il est dans ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Là, on va voir qu'il ne communique pas non plus avec les yeux, qu'il ne s'intéresse pas. Si vous vous asseyez à la table de jeu, il va pas jouer avec vous. Il va jouer son jeu. Il en a rien à foutre de vous. Il tourne, il vaque. Et là, l'école va s'alarmer. Mais souvent, les parents veulent pas s'alarmer. C'est tellement douloureux de penser qu'on a un problème. Sauf que, je leur dis toujours, il vaut mieux s'alarmer parce que on va à ce moment-là mettre des bonnes pratiques en route pour optimiser le potentiel. On peut toujours optimiser le potentiel d'un enfant. Il ne va pas falloir faire d'erreur.
On arrive à la fin de cette émission, c'est passionnant et on n'abordera pas tout aujourd'hui. D'ailleurs, on va retrouver des chroniques sur le langage et l'enfant.
Des chroniques sur les questionnements des parents, bien sûr.
On va les retrouver sur Beurre FM. Peut-être une dernière question. Il y a une rumeur, il y a une idée reçue plutôt, qui dit qu'il y a un certain âge, un enfant peut apprendre 5, 10, 15, 20 langues. Il peut apprendre toutes les mathématiques du monde. Puisqu'il a un capital de neurones impressionnant, hein, qu'il va perdre progressivement. Est-ce qu'il y a un âge où on peut apprendre l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois? Est-ce qu'à 2-3 ans, l'enfant peut apprendre toutes les langues?
D'abord, dès la naissance.
C'est une idée reçue. Hein,
non, c'est une véritable idée très intéressante. Dès la naissance, un enfant peut apprendre la langue de sa maman et en même temps la langue de sa grand-mère. Par exemple, une maman francophone et une grand-mère, voilà. Et puis, ensuite, il va augmenter mais il faut que chacun parle dans la langue dans laquelle il pense. Il faut pas essayer d'être professeur d'un enfant. N'essayez pas ça. Mais si dans son environnement, on parle et on pense plusieurs langues et qu'on les lit, un enfant peut aller jusqu'à 9 langues.
Alors, ce que je vous propose, c'est que on écoute les chroniques et qu'on aille un peu plus loin dans ce que vous êtes en train de dire. C'est passionnant. Merci Edouard Gentil.
Oui, merci de vos questions très
passé dans
porteuse,
la vie
merci.
En grand. Et avec vous, c'est la vie en très très grand. Merci beaucoup Edouard.
Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors AVS, tous les jours, ça veut dire à votre santé. Alors aujourd'hui, on va dire à votre surprise, mon invité, le docteur Christophe Hague. J'ai failli pas le dire. Bonjour Christophe, comment allez-vous?
Bonjour Philippe, super, chaque fois que je vous vois.
Voilà, ça c'est une bonne surprise. Vous êtes professeur HDR à Lyon. Alors HDR, c'est le plus haut grade. Hein.
Ouais, c'est le terminus de la fac. C'est après, on éteint la lumière et tout le monde doit sortir de l'enceinte.
Donc à Lyon Business School, vous êtes chercheur en psychologie sociale. Votre spécialité à vous, ce sont les émotions dont vous explorez l'univers infini avec passion, mais aussi méticulosité, écrivez-vous. Et depuis plus de 15 ans, vous êtes le spécialiste français de cette forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnel, ouais. Et vous contribuez à infuser cette idée dans la société française.
Surtout
qui
en ce moment.
Prend du temps, mais quand on regarde d'où vous partez, maintenant tout le monde parle d'intelligence émotionnelle.
Ouais, c'est un travail de fond, c'est un marathon, mais quand on voit ce qu'on vit actuellement, avec cette crise qui est autant économique que psychologique, il y a une situation qui est quand même, ça bulle émotionnellement, les gens n'ont pas forcément les outils pour réguler leurs angoisses, leur stress, etc. Donc moi, je pense qu'il faut maintenant être dans le concret. Donc mes livres, les outils que je développe de manière scientifique sont là pour aider concrètement les gens. Moi, il y a une dimension pragmatique. Je viens d'un petit village au fin fond de l'Alsace, une famille qui était dans le milieu agricole. J'ai ce côté très terrain. Donc maintenant, c'est comment on peut concrètement, une fois qu'on a sensibilisé les individus sur l'importance des émotions, comment on peut les aider dans leur quotidien.
Il y a des exemples concrets dans votre livre. Alors, si vous vous demandez comment négocier avec vos enfants, on verra tout à l'heure. Vous, c'est un de vos objectifs, hein, c'est de rendre les découvertes scientifiques accessibles. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un simplexologue peut-être.
Ouais, voilà, ouais. On peut dire ça, c'est joli.
Ouais. Ouais, mais en fait, mais pas un banalisateur. Et ça, non. Vous y tenez, parce que.
Non, parce que alors, je travaille beaucoup avec des neuroscientifiques. Je fais beaucoup d'études en psychologie sociale, etc. On utilise des modèles statistiques très complexes. Mais à la fin, le conseil, lui, doit être simple. Et moi, je suis un peu dans le courant. Je sais pas si vous vous souvenez de ce paléontologue célèbre qui faisait des pages dans Le Monde qui s'appelait Stephen Jay Gould. Il disait une chose, moi, qui m'a toujours marqué. Il disait, la vie préfère souvent la simplicité à la complexité. Et je crois que les choses les plus simples sont les plus élémentaires pour le genre humain. Quand j'écris un bouquin, quand je donne une conf, quand je passe à la télé, la radio, etc., souvent j'ai un petit, voilà, mes petites fiches, etc. Et je m'entraîne un petit peu avec ma fille qui aujourd'hui a 11 ans. Et je lui dis, est-ce que tu comprends ce que je raconte? Et s'il y a un point qu'elle ne comprend pas, je réécris. Parce que je suis intimement convaincu que, à force de vouloir tout complexifier, au nom d'un esthétisme dans le langage, dans la modélisation, etc., on se perd. Et souvent, moi, j'ai rencontré des gens qui ont écrit des best-sellers, qui sont des chercheurs dans certains domaines, et quand je leur dis « Tu peux me pitcher ton bouquin ?», ils me le pitchent, et je leur dis « Écoute, j'ai pas tout compris. » Ils font plusieurs versions de leur pitch, et à la 10e version, ils disent « Écoute, en fait, je crois que ce que j'écris et ce que je raconte dans mes cours, en fait, je le comprends pas moi-même. » Je dis « Ok, bon, bah allez, viens, on va... »
Ouais, mais si c'est complexe,
on va boire un coup,
ça a l'air intelligent.
Ouais, voilà, ça a l'air, mais c'est pas forcément la réalité, c'est pas forcément la vérité de la vie.
Donc simplexité, je prends cet exemple parce qu'un jour vous êtes piqué par un article de Télérama,
ouais.
qui vous accuse de banalité.
Ouais, alors moi je l'ai pris comme un compliment.
Ouais, après vous dites oui, mais ça c'est parce que vous êtes un voilà, vous êtes
un optimiste.
Vous travaillez sur les émotions.
Non, parce que vraiment, enfin, ouais, mais au-delà de ça, j'ai vraiment pris parce que l'article n'était pas trop corrosif. Simplement, la journaliste disait, mais en fait, ce que vous racontez, c'est, oui, c'est simple, en fait. Et moi, je l'entends, oui, c'est simple comme de l'eau de roche. Et je me dis, bah oui, les gens, ils comprennent ce qu'on raconte. Et si vous voulez donner des conseils aux personnes et que les personnes l'appliquent dans leur quotidien, faut que ce soit digeste. Faut pas rentrer dans un truc matriciel, un machin avec je sais pas combien de concepts dans le concept dans le concept. On les perd. Donc moi, mon travail, c'est effectivement non seulement essayer de faire de la recherche de bon niveau, mais en plus derrière, se dire bah, de tout ça, il y a des outils concrets qui peuvent être produits pour aider les gens.
Bien, des outils, vous avez contribué à en élaborer quelques-uns. Hein. Mmh. Vous êtes le co-auteur d'un test QE, coefficient
émotionnel. Ouais. Donc comme le QI est la mesure de l'intelligence analytique, le QE quotient émotionnel, c'est la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle. Et il se trouve que très récemment, c'est tout chaud, ça sort du micro-ondes, on vient de publier un papier de validation d'un test d'intelligence émotionnelle pour tout le monde. Parce que le QE Pro, lui, il est spécifiquement dédié aux dirigeants, aux managers, parce qu'on, voilà, on voulait un peu aller dans le monde de l'entreprise. Et le QEG, G pour généraliste, lui, il s'adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus. Et c'est cool parce que on met à peine 25 minutes à le passer. Et quand vous passez ce test-là qui est fiable, c'est un test dit de performance. C'est-à-dire, à un moment, il y a des réponses, il y a des logiques émotionnelles, bah, soit vous comprenez ces logiques, soit vous les comprenez pas. Et en 25 minutes, eh bien, vous avez, à la fin, un profil émotionnel qui est dressé de vous. Vous avez 11 scores, vous avez une espèce de photographie vous concernant votre rapport avec les émotions, et vous pouvez partir de cette photographie, eh bien, pour renforcer tel ou tel type de dimension. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est extraordinaire. Ça a tout un tas de bénéfices quand on est dans ce registre-là. On sait que quand vous développez votre intelligence émotionnelle, eh ben, vous gérez mieux votre stress, vous prenez de meilleures décisions, notamment dans des situations complexes et enjeux, vous augmentez de la qualité de la relation à l'autre, vous avez moins de mots MAX, de tête, de ventre, de dos, vous êtes moins toxique, vous avez une satisfaction de vie qui est supérieure, vous êtes moins addict à l'alcool, à des drogues dures, vous avez une employabilité pour tous ceux qui cherchent un boulot plus forte que la moyenne, et vous êtes moins toxique.
Alors,
en ce moment,
c'est important parce que, à l'heure de l'intelligence artificielle qui va peut-être remplacer certaines tâches, c'est important de pouvoir, justement, pouvoir occuper d'autres tâches que la machine ne pourra pas remplacer.
Et ça, c'est intéressant parce que l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle, il y a des études qui montrent, notamment des sondages d'IBM, il y avait le forum de Davos, etc., qui montrent que quel est le top 3 des compétences à acquérir pour l'être humain face à cet essor là de l'IA: flexibilité mentale, aisance analytique et intelligence émotionnelle. Donc dans le triptyque des compétences clés à acquérir aujourd'hui et demain dans un futur proche face à l'IA, face à la redéfinition de la société par l'IA, eh bien, il y a l'intelligence émotionnelle.
Bon, alors, si vous voulez passer le test, attention, c'est payant, hein, je vous le dis.
Ouais. Alors, c'est normal parce que tous les tests sérieux, je le dis maintenant, tous les tests sérieux en psychométrie sont payants parce que s'il était rendu gratuit, accessible à tous, on aurait un phénomène assez étrange qui serait le suivant, c'est que, par exemple, les parents entraîneraient leur gamin à la bonne réponse. Et donc, nous, en tant que chercheurs,
parce que tu peux le repasser autant de fois que tu veux.
Et ben, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, et ben, derrière, nous, on mesurerait plus une capacité mentale, on mesurerait un apprentissage, donc on parle plus d'intelligence.
Non, je le dis pour tous ceux qui vont faire le test après l'émission, que c'est pas de la pub qu'on fait, mais le test existe, mais voilà, voilà, il faut le payer. Et puis, alors, vous aussi, pour bien vous comprendre, mais ça, on en a déjà parlé, vous croyez en la thératologie. Oui. Pourquoi?
Bah moi, j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. J'aime bien étudier les situations extrêmes pour comprendre finalement notre quotidien. Et c'est vrai, par exemple, je prends l'exemple du dernier bouquin sur la surprise. J'ai fait une rencontre assez extraordinaire à nouveau dans ce bouquin et j'ai échangé pendant à peu près un an et demi avec Damien Nichols et sa femme Laurie. Et il se trouve que Damien Nichols, pour raconter rapidement son histoire,
qui est devenu, c'est le prétexte de votre livre d'ailleurs.
Ah ouais, c'est devenu peu, lui, ouais, il est devenu la ligne verte. Vous allez comprendre pourquoi. Mais Damien Nichols, en 1993, il y a la police qui débarque chez lui, qui l'arrête et qui l'accuse avec un de ses meilleurs amis et une connaissance d'un triple homicide, donc meurtre de 3 gamins de 8 ans. Et Damien Nichols, et ben donc il est surpris par ce qui lui arrive et il se trouve qu'il a le look à l'époque du coupable idéal. On est dans les années 80-90, il y a une panique satanique aux États-Unis. Il y a des grands noms de la criminalité, hein, des tueurs en série, Jeffrey Dahmer, etc., qui font la une des médias. Donc vous avez tous les États-Unis là qui ont peur, en fait. Les parents américains ont peur que leur gamin se fasse enlever par ce type d'individu. Et donc lui, il a look parce que il lit du Stephen King, il écoute du Metallica, il est habillé comme Neo dans Matrix avec voilà. Et en plus, il vient des quartiers pauvres. Bref, il a pas de quoi se défendre. Et donc il est accusé et le 19 mars 1994, il est condamné à la peine capitale. Donc on l'envoie dans le couloir de la mort. Et ce qui est fou, je m'en suis rendu compte hier lors d'une interview, c'est que ce 19 mars 1994, moi je fêtais mes 15 ans en Alsace. J'étais, il y avait un...
C'est votre date anniversaire.
Le 19 mars. Ouais. Un beignet dans le soleil. J'étais avec mes meilleurs amis. J'ai passé une journée mémorable. Et quand moi, je vivais quelque chose de solaire, de lumineux, lui, à ce moment-là, le sol se dérobait sous ses pieds. Il vivait la crasse. Et il se retrouve dans le couloir de la mort. Et en 2003, il est envoyé dans une prison extrêmement dure où il verra même plus, finalement, le soleil.
Il n'y a plus de fenêtre, ouais.
Le ciel, il est dans une pièce, dans une cellule où il fait deux pas, il va d'un mur à l'autre. Et bon, bref, très compliqué. Sauf que, en 1996, HBO sort un doc, ils avaient filmé tout le procès, ils disent, bah, attends, c'est fou, c'est à charge, en fait, tout ce qu'il y a sur ce gamin-là. Il a 18 ans, hein, quand il rentre dans le couloir de la mort. Il dit, c'est pas possible. Donc, bref, il y a tout Hollywood qui se met à le soutenir. En 1999, il épouse sa femme Laurie, qui est absolument pas une détraquée. C'est une architecte qui bossait à New York avec des célébrités, qui, en fait, elle rentre en empathie avec lui.
Pas détraquée, enfin, vous dites qu'ils se sont écrits 5000 lettres.
Ouais, mais au début.
Ça, quand même, c'est beaucoup 5000 lettres. Quand
ouais, mais,
pensez, c'est
alors, dure, ouais, mais sur 18 ans.
Ouais, voilà.
Il y a ça à 18 ans, c'est beaucoup. Et en fait, il y a ce côté, elle ressentait ce que lui ressentait. À son adolescence, elle avait des points communs avec lui, plein de choses comme ça. Et commence à lui écrire, mais de manière très amicale, parce qu'elle avait vu le doc d'HBO, où ça l'avait vraiment cogné fort, psychiquement. Mmh. Donc elle voulait aider, en fait, ce gars au départ.
Sauf qu'elle embrasse la lettre qu'elle lui envoie.
Alors ça, voilà, il y a ce côté, mais il y a un truc, il y a un crush. C'est un crush particulier. Ils sont toujours ensemble, ils sont mariés, ils sont heureux. Moi, je les ai régulièrement par message. Et je vous assure, c'est un couple très surprenant et cohérent, en fait. Il y a une cohérence dans ces situations absurdes qu'ils ont vécues. Et il se trouve qu'en 2011, il y a un espèce de texte de loi bizarre dans la législation américaine, un plaidoyer Alford, qui fait qu'en gros, au vu des évidences apportées par les avocats de Damien Nichols, ben non, on dit ok, bon, il y a de fortes probabilités que le type soit quand même globalement innocent. Mais vu que là-bas, le procureur et le juge sont des élus, veulent pas perdre la face, donc ils le font signer ce papier qui, en gros, il dit ok, ben assume que t'as passé 18 ans, tu vas pas nous poursuivre, on va pas te compenser.
Tu reconnais que t'es coupable, en fait.
Et tu reconnais que t'es coupable aux yeux de la. Mais en même temps, on te libère sur le champ et tu peux aller clamer ton innocence à l'extérieur. Et fait extraordinaire, parce qu'on se rencontre aujourd'hui, Philippe, il y a quelques jours, la Cour suprême de l'Arkansas a dit ok, donc quasi 15 ans après sa libération, on dit ok, là il y a tellement d'évidence, notamment sur des prélèvements ADN, on réouvre le dossier, ce cold case, et maintenant on veut vraiment trouver le meurtrier. Et juste, qu'est-ce que nous apprend Damien Eccles, entre autres, je le prononce à l'américaine, Damien.
Non, mais allez-y.
Mais Damien Eccles, il dit la chose suivante, en tout cas, c'est ce qu'il porte en lui, c'est que le fait d'apprivoiser ses émotions, et notamment la surprise, eh bien, ça fait que la crasse, le toxique, l'insoutenable ne vous brise pas. Et Damien Eccles, aujourd'hui, moi je le compare comme tous les individus QE++ avec un quotient émotionnel élevé, parce qu'il a lu plus de 2000 bouquins sur le sujet, etc. Je les compare à des tardigrades. Vous savez, cette créature-là de moins d'un millimètre, alors c'est pas très glorieux visuellement, mais qui est capable de résister à des températures élevées et basses, à tout un tas de conditions extrêmes, bah lui, il est comme le tardigrade, il est devenu extrémophile. Grâce à son intelligence émotionnelle, il est capable de se tirer de plein de situations où ça bulle émotionnellement fort et qui sont très compliquées.
Et aujourd'hui, il fait des conférences sur le développement personnel.
Et il écrit des livres, notamment certains qui sont devenus des best-sellers classés dans le top 50 du New York Times.
Bien, le docteur Christophe Hague est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Christophe Hack, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, s'appelle Le pouvoir de la surprise, même mauvaise, chez Albin Michel. Vous tournez autour de la question de l'intelligence émotionnelle et vous l'abordez cette fois-ci sous l'angle de la surprise. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a le hockey?
On lui fait bouh, on lui fait peur et on espère que derrière ça enlève
le hockey. Disparaisse,
mais la surprise, elle a la même propriété. C'est-à-dire que quand on est surpris dans la vie, ça enlève nos hicks de la vie. La surprise, elle permet de nous tirer de plein de situations, de nous adapter à des situations critiques. Parce que ce qui est intéressant avec cette émotion, on parle d'une émotion.
Alors c'est une émotion. Déjà, tout le monde ne sait pas que la surprise est une émotion. Voilà. Et pourtant, vous dites que ça fait partie des 7 émotions
de base.
De base.
Ouais. Donc elle est, ouais, comme la colère, la tristesse, la joie. Elle fait partie de cette bande-là. Sauf que c'est la seule émotion qui peut être à la fois plaisante et déplaisante. Agréable et désagréable. Parce que la colère, plutôt désagréable, la joie, agréable. Mmh. Elle est un peu les deux. C'est l'émotion aussi la plus brève du lot. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette émotion, elle vient rarement, elle s'invite rarement dans votre cerveau seule. Elle est pas célibataire, elle est souvent accompagnée, elle emmène dans son sillage, elle embarque dans son sillage d'autres émotions. Et ces émotions-là, parce que les émotions, c'est des informateurs, c'est des panneaux signalétiques qui vous disent « Attends, il va se passer un truc, c'est comme un panneau signalétique avant un virage dangereux, attends, il va se passer quelque chose dans un futur proche. » Et un quelque chose qui peut avoir un impact sur notre niveau de bien-être, le niveau du bien-être des gens autour de nous, etc. Et donc, parce qu'elle vient accompagner dans notre tête, avec d'autres émotions, eh bien, ça va venir affiner le grain de l'analyse de la situation. Et ce qui est fou, c'est que l'émotion, elle nous permet vraiment de nous adapter. Parce que derrière, elle va booster en fait notre envie de comprendre ce qui est en train de se tramer. Et c'est elle qui est vraiment, elle est l'essence dans le moteur de la soif de comprendre. Mmh. Et ça, c'est intéressant parce que c'est elle qui nous permet d'évoluer. Edgar Morin, qui est un des parrains du bouquin, disait c'est l'étonnement, la surprise qui nous oblige à évoluer. Et 70% des Français que j'ai interrogés sont d'accord avec cette affirmation. Et c'est vrai, parce que il y a une anecdote dans le bouquin, moi je commence le livre avec ça, avec un certain Laurent. Et Laurent, moi je suis professeur à l'EM Lyon, et il se trouve qu'à un moment, je voulais aller dans mon bureau récupérer 2-3 documents, mais un passage éclair, 5 minutes, et là j'ai un type qui m'attend. Et le type est plutôt sympa, même si le faciès me fait penser à Rogozine, qui est un espèce d'ultra-nationaliste russe, donc qui est son sosie maléfique, son doppelganger. Mais il a quand même une bonhomie, ce Laurent, et je vois que j'ai un truc sympathique, et il me parle. Je dis, je suis désolé, j'ai 5 minutes, je vous connais pas, faut qu'on prenne rendez-vous, j'ai pas le temps. Bon bref, une heure plus tard, j'ai pas vu le temps passer, type était sympathique, il me dit, rendez-vous dans quelques jours.
Alors qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen, justement, pour que ça dure pas 5 minutes et que ça dure une heure?
Ah ben il était tout le temps, il me questionnait, et des questions surprises en fait. Je dis, ah ben tiens, là j'ai lu que vous avez fait, vous êtes intéressé là. Ah oui, vous travaillez un peu sur la tristesse. Mais le rôle positif de la tristesse, là, il allait m'interpeller sur des choses assez étonnantes. Je lui dis, tiens, ok, le gars a dû travailler un peu le dos, mais ça paraissait naturel dans la discussion.
C'est fluide. Ouais.
Fluide.
Ouais.
Et donc il me dit, rendez-vous dans quelques jours. Quelques jours plus tard, il revient, c'est un autre jour. Là, j'étais en train de donner un cours, je suis à la pause de mon cours. Je le revois, je dis, c'est pas possible. Je dis, là, j'ai pas le temps, j'ai 5 minutes. J'ai le cours qui continue. Il fait, non, mais je te donne juste rendez-vous en fin d'après-midi. Je t'attendrai sur le parking de ton école. Je sors, il est à peu près 17h30. Et là, je vois Laurent, ça, adossé à une berline, une grande berline avec des vitres teintées. Et il dit, allez, on y va. Alors moi, j'étais suffisamment rassuré. Je lui dis, ok, le gars va sans doute pas me prélever un rein ou me kidnapper. Je sais pas, il y avait un truc. Et puis j'ai un côté un peu rock'n'roll aussi.
C'était dans les années 70 quand on enlevait les
autres. Non, il y a pas si longtemps que ça, finalement. Et donc, je rentre dans la voiture. Et là, dans la voiture, il y a un gars à l'arrière de la voiture. Il me tend la main, il me fait bonjour Thierry. Je dis bonjour Christophe. Et je dis Thierry, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit j'en sais foutre rien. On fait 1h30 de route. On arrive dans un espèce de relais château. Et là, il y a des gens en costume cravate. Laurent nous amène dans une salle. Il prend deux feuilles qu'il place en chevalet. Il met nos noms dessus. Et là, il prend le micro. Il rameute les troupes. Et là, il dit, donc là, je comprends que je suis face à des dirigeants, en fait. Et là, il prend le micro. Il dit, bon, bah, écoutez, on a la joie et la surprise d'avoir ce soir Christophe Hag qui vient nous donner une conférence sur l'intelligence émotionnelle et les nouvelles tech. Et vous avez Thierry Regon, je le cite là, un patron assez connu dans la région lyonnaise, qui va témoigner de sa pratique de dirigeant et de son rapport aux émotions. Et là, je dis, waouh, quand même, le gars, il m'a amené jusque-là.
Comment il m'a hacké?
Il m'a hacké le cerveau. Et il se trouve que, donc, la conférence se passe très bien et tout. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça spontané. Et à la fin de la conf, il y a le cocktail. Et là, il vient me voir et fait, t'as compris le métier que je fais? Et là, je le regarde, je dis, je crois. Et je lui dis, bureau des légendes. Il fait, c'est ça. Bon, bref. Donc je vais pas donner son métier précis, mais
bah non, ça a pas d'intérêt. Alors là non, ça n'a pas d'intérêt. C'est quoi son métier précis?
Bah il est pas loin de ce que fait Mathieu Kassovitz dans le Bureau des légendes. Il a fait ça dans sa vie.
Il l'a fait, oui. Il le fait.
Ah oui, il l'a fait. Non, oui, non, il l'a fait. Voilà, il a vécu ces choses-là. Et donc, il se trouve.
C'est comme ça qu'on a le pas de quelqu'un, en fait. C'est comme ça qu'on n'a pas de quelqu'un avec qui on veut rentrer en contact, en fait.
Ouais, et en fait, il ne faut pas suivre l'individu, il faut aller vers l'individu. C'est-à-dire, souvent, on se dit, tiens, il y a des gens qui vous suivent, il y a une filature, etc. Non, il ne faut pas être derrière la cible. Il faut aller à la rencontre de la cible. Et là, ça paraît plus.
Il ne faut pas se cacher, c'est ça que
vous voulez. Il ne faut pas se cacher. Et ce qui est fou, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin, c'est on rentre tard le soir, donc il raccompagne Thierry et moi à nos domiciles. Il est super tard, voilà, dans la nuit. Et là, je me dis, j'ai une envie comme ça irrépressible de revoir le film de Fincher, The Game, avec Michael Douglas, un film que j'ai adoré, et qui montre la vie d'un gars qui est un chef d'entreprise, un magnat de la finance, mais qui déteste la surprise. Il exècre la surprise, il veut une routine, il veut tout standardiser, tout anticiper, tout mettre sous algorithme, mais il a une vie sociale pauvre, sa femme l'a quitté, il est dépressif à souhait, etc. Et je regarde ce film,